cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Et non, ce n'est pas la chronique de l'humour, mais la chronique judiciaire et avec Félix Séguin. Mais je trouvais très drôle la déclaration dont tu veux nous parler, Félix, du diocèse de Québec. Et je te laisse vendre le punch.
Parce que l'humour se trouve parfois dans la justice, n'est-ce pas? Quelle drôle de déclaration, quelle bonne idée de Jean-Luc Lavallée, notre journaliste au Journal de Québec, d'avoir fait le suivi là-dessus. Tu te rappelles bien que lors de la dernière visite du pape François au Québec, assez surprenamment, il s'est excusé tout d'un coup pour les abus contre les mineurs et a appelé à des, je cite, actions fortes pour plus de 2000 victimes déclarées ici au Québec, là, de gens qui étaient sous l'autorité de l'Église. Alors, Jean-Luc Lavallée a fait le suivi là-dessus et il a appelé, entre autres, l'abbé René Tessier au diocèse de Québec. Le diocèse de Québec, pour histoire, il est visé lui aussi par une action collective. Pour, on a englobé, si l'on veut, toutes les agressions sexuelles qui ont été commises par des gens qui étaient sous autorité de l'Église, des prêtres, des abbés, des curés, name it, depuis 1940. Donc, dans ce cours collectif-là, chacun des demandeurs peut réclamer, puis c'est une estimation pour l'instant, mais environ 600 000 $ par victime. C'est 110 personnes qui se manifestent. Alors, 110 fois 600 000, 66 millions. Et il y a plus en plus de plaignants. Et là, écoute, écoute la citation de cet homme d'Église, René Tessier. Il dit « Ce que je peux vous dire sans embarquer dans le processus judiciaire, c'est qu'il y a toujours eu une ouverture sur le diocèse pour compenser les victimes, mais il faut arrêter de penser que l'Église est riche à craquer parce que c'est complètement faux et il faut arrêter à penser à des montants astronomiques. » Alors, ça, c'est « je veux pas m'immiscer dans le processus judiciaire. » Je l'ai jamais fait, sauf une fois au chalet. Alors ça, c'est la fois au chalet de l'abbé, ça, de l'abbé.
Je suis pas raciste, mais.
C'est ça, oui, c'est ça. Je suis pas raciste, mais ceux qui sont pas pareils sont différents. Alors, moi, d'abord, je trouve ça. Il y a deux choses que je trouve ultra curieuses là-dedans. C'est cette déclaration, donc à sa face même. Tu sais, les avocats du diocèse vont juste dire, oh boy. Tu sais, les journalistes, là, nous. On se frotte à chaque jour, quelquefois plusieurs fois par jour, à des événements litigieux qui ont été soit judiciarisés devant un tribunal ou encore qu'une des parties impliquées dans un litige X ou Y ou une crise a engagé un avocat, etc. Puis ce qu'on nous dit, c'est plate, je peux pas t'en parler parce que on a été mis en demeure. On attend de voir s'il y a des procédures qui seront entamées contre nous.
Mais je peux te dire,
mis en demeure, l'inverse.
Je peux te dire, Félix, quand j'étais attaché de presse au gouvernement du Québec, c'était pas mal une ligne qu'on aimait utiliser quand il y avait des dossiers judiciarisés pour lesquels les politiciens devaient s'exprimer. Voyons donc, c'est devant les tribunaux, vous n'allez pas pouvoir commenter. Dommage.
Oui, et tu peux te... Et même comme attaché de presse là-dedans, puis comme comme cabinet ministériel, tu peux te draper dans la vertu en plus avec cette citation-là.
Mais bien
parce
sûr.
Que tu peux dire, on a tant de respect, bien sûr, pour la séparation du politique.
On peut pas s'immiscer, voyons donc.
Qu'on peut pas s'immiscer, voyons donc. Ah bien oui, c'est vrai, bien oui. Alors que bon, des fois, ça fait l'affaire de tout le monde. Mais encore, l'abbé rajoute une couche. L'abbé Tessier rajoute une couche dans ça. Il dit, on pourrait accuser les avocats des deux parties, je te le cite là, mais on devine que les montants en cause font partie des choses qui prennent du temps à s'entendre. En français, c'est une drôle de citation, mais il dit, il peut y avoir des avocats qui font des idées totalement irréalistes. Faut pas s'imaginer qu'il y a encore des dizaines de millions disponibles. C'est rêver en couleur. Hey, attention. Là, la question de la solvabilité que le requérant regarde quand il poursuit, effectivement, elle est importante, mais juste dire que l'Église a des églises, hein, parce que c'est une église. Alors, l'Église a des bâtiments, l'Église a des presbytères, l'Église a des biens meubles. Et puis moi, quand j'entends une déclaration, ça c'est l'autre partie de ma stupéfaction ce matin, c'est quand j'entends une déclaration comme ça, je trouve qu'elle est bien mal fondée en respect des futures victimes qui, là, on se disait, je pense que dans le dossier des abus de l'Église, on n'a pas à faire, en tout cas, il faut faire la preuve, les justiciables doivent faire la preuve que c'est bel et bien arrivé, mais on s'entend tous que c'est arrivé, là. On s'entend tous, puis on le sait. Puis, je trouve que quand tu vois, attention, pas beaucoup de cash, là, Attends un peu, là. Appelle à Rome, appelle, tu sais, fais quelque chose.
Non, mais visiblement, il n'est pas parti visiter le Saint-Pierre récemment, là, parce que de la dorure, il y en a à Rome.
Oui, non, oui, exact. Tu sais, vend quelques trésors, là. Vend quelques trésors de Saint-Pierre de Rome, effectivement, puis je suis assez persuadé que tu vas être capable d'indemniser pas juste le diocèse de Québec, mais encore. Puis, tu sais, je veux dire, moi qui complètement, tu sais, moi, je m'en suis jamais caché, moi, je ne suis pas baptisé, je n'épouse aucune religion, j'en ai que faire, comprends-tu? Je veux dire, si le diocèse de Québec est poursuivi, pas capable de payer, fait faillite, là, moi, je ne viendrais pas pleurer qu'un diocèse a fait faillite, là. Ça me fera pas brailler. Je serais pas, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, faut pas les laisser faire faillite. Je veux dire, pour moi, même si c'est une œuvre de charité, ça reste une personne morale, puis qu'est-ce que tu veux. Ce serait drôle, hein, le premier diocèse à faire faillite. Je ne sais pas si ça serait le premier au Québec, là, mais en tout cas...
On peut juste dire que Rome va pas permettre, le Vatican va pas permettre à un diocèse de faire faillite, là, tu sais, ça paraît pas mal.
Non, c'est ça, mais en tout cas, elle ne s'est pas construite en un jour, mais elle peut se faire poursuivre en quelques années, ça c'est sûr, et j'espère que ces gens-là qui ont subi des abus impensables n'ont pas été trop refroidis par les déclarations de l'abbé René Tessier. Voilà.
Sinon, il y a cet incendie, ce curieux incendie chez Grégory Woolley, un leader du crime organisé.
Ouais, JF en régie, gardons cette chronique-là parce que je suis persuadé qu'on va en reparler de Grégory Woolley au cours des prochaines semaines. Roxane Trudel, dans le Journal de Montréal, qui nous a appris ça hier. Je t'en parle aujourd'hui parce que c'est un événement hyper important, parce que Grégory Woolley est hyper important dans le monde criminel. Alors, passons en revue les faits assez rapido. C'est un incendie qui s'est déclaré dans son garage, près de son domicile à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une très luxueuse maison. Elle était en vente, je crois, cet été, si ma mémoire est fidèle. Ça s'est passé à 1h50 de la nuit de vendredi à samedi. Et c'est Grégory Woolley, sa conjointe, qui l'habite. Donc, Grégory Woolley, c'est qui? Ça a été probablement l'Afro-Américain le plus près des Hells Angels qui a jamais été, parce que les Hells Angels, dans leur charte, ont cet article extrêmement raciste, et je prononcerai pas le mot, mais c'est le mot en haine, que les gens qui sont avec le mot en haine ne peuvent pas faire partie du club. Sauf que Grégory Woolley a toujours été très proche de Mom Boucher, a toujours été très proche ensuite des Italiens comme Leonardo Rizzuto, Stefano Sollecito. Le fait qu'il y avait eu des coups de feu, je crois, tirés près de chez lui au début de l'été aussi. Alors, le fait que son garage soit incendié, tu regardes les dommages, d'ailleurs, sont presque inexistants. C'est évident qu'on voulait pas que la maison de Grégory Woolley passe au feu complètement. Mais c'est évident qu'on voulait lui lancer un message. Il y a eu des balles chez le voisin. Quand je te parlais de quelques mois, au début de l'été, là, c'est la fin du printemps. Il y a eu une erreur de cible. Et c'est des impacts de balles qu'on a trouvés devant la déventure du voisin, mais pas chez Grégory Woolley. Écoute, ça va. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un jeu, là, de coulisses entre différentes factions du crime organisé à Montréal. J'ai l'impression que si ça se calme pas, cette affaire-là, on va entendre parler Grégory Woolley. Je ne lui souhaite pas de mal, je ne souhaite de mal à aucun être humain, mais j'ai l'impression qu'il va commencer à avoir peur pour lui et sa famille.
Est-ce qu'on peut dire que le crime organisé souhaite, lui, faire passer un certain message depuis le début de l'été, et voilà un autre message qu'il reçoit, espérant que toutes ces violences vont trouver une fin rapide. Félix Séguin, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Avec grand plaisir. À demain, Yasmine.
Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve demain, 7h le matin. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Moranville-Ouellette et je vous dis à demain.